Si vous voulez bien vous tourner avec moi dans la petite carte postale du Nouveau Testament qui s'appelle Philémon. Ça se trouve après Tite, juste avant la lettre aux Hébreux. Et donc nous continuons pour quelque temps encore dans le Nouveau Testament, après avoir vu les lettres pastorales, les lettres que Paul écrivait à ses disciples, qui étaient de jeunes pasteurs, Timothée et Tite. Nous voyons maintenant une lettre que Paul envoie à un dénommé Philémon. Alors, elle est courte, c'est une lettre, c'est presque, on pourrait l'écrire sur une grande carte postale. Et c'est un peu une petite lettre perdue entre Tite et Hébreu à la fin du Nouveau Testament. On va la lire ensemble rapidement et on reviendra sur un premier passage. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante, et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu, en effet, beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Petit texte, une petite lettre. De quoi s'agit-il? Paul est en prison. Il écrit cette lettre en prison. Il a écrit ce qu'on appelle les épîtres de la captivité avec Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Et il a la liberté de recevoir du monde et d'envoyer du courrier. Et là, il nous parle d'un dénommé Onésime. Onésime, ce nom veut dire utile. C'est pour ça qu'à un moment, au verset 11, il y a des jeux de mots qu'on rate si on ne sait pas que Onésime veut dire précisément utile. Et cet homme, Onésime, était un esclave. Son maître s'appelait Philémon. Philémon était celui qui avait, ça devait être un homme riche, car il avait une maison assez grande pour recevoir l'église de la ville de Colosse chez lui. Et il avait, au tout début, on voit qu'il y avait une sœur, la sœur de Paul, c'était Appia, on pense que c'était la femme de Philémon. Certains pensent que Archippe, c'était peut-être leur fils, qu'il était aussi pasteur. Il est mention à la fin, il est fait mention d'un Épaphras. Dans un autre passage, on parle de lui, dans Colossiens 1:7, et on pense que c'était lui, en fait, le pasteur qui se trouvait à Colosse, mais en son absence, puisqu'il était venu auprès de Paul pour encourager Paul, c'était sans doute Archippe qui s'occupait de la partie spirituelle de l'église qui se réunissait chez Philémon. Il se trouve que ça nous parle plus tellement, et pourtant il y a encore, on dit qu'il y a aujourd'hui plus d'esclaves dans le monde qu'il y en avait à l'époque romaine, mais à l'époque romaine, 50% de la population, c'était des esclaves. Il y avait 12 millions de personnes dans l'Empire romain et il y en avait 6 millions, c'était des esclaves. Le maître, dans la loi romaine, le maître avait tout pouvoir sur l'esclave. Et les esclaves essayaient souvent de s'échapper. Et c'est ce qu'avait fait ce dénommé Onésime. Onésime avait fui son maître. On pense que pour financer son voyage, pour permettre de s'échapper, il lui avait sans doute aussi pris de l'argent. Il avait dû voler. Et pour se cacher, il avait pensé que le mieux, c'était d'aller dans la grande ville. Dans la grande ville de Rome, la capitale de l'Empire romain. Et là, peut-être parce qu'il a été repris par les autorités, peut-être en volant quelque chose, il se retrouve au contact de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, qui aimait bien être dans les chaînes parce qu'il avait tout loisir de parler, il avait un auditoire captif qui était attaché à lui, et il leur parlait du Seigneur. Et grâce à ça, toute la garde prétorienne avait entendu parler du Seigneur, l'évangile avançait. Mais on pense que dans ce cas-là, c'est cet esclave en fuite qui avait été touché par le message de l'amour de Christ donné par Paul en prison. Et on peut imaginer, là c'est pas dans le texte, mais on peut imaginer que Paul demande en prison à cet esclave, « Tu viens d'où toi? Qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je suis un esclave en fuite. »« Ah bon? Et d'où tu viens ?»« Je viens de Colosse. »« Ah c'est drôle, j'ai un bon ami à Colosse. Tu étais l'esclave de qui ? Ben, j'étais l'esclave de Philémon. C'est pas vrai, mais je connais Philémon. Le monde est petit. C'est pas dans le texte, mais on peut imaginer la réaction de Paul. Et en même temps, Onésime savait que ce qu'il avait fait était contre la loi. C'était même punissable. On pouvait punir un esclave en fuite par la mort. Et Paul, et l'Esprit Saint surtout, je pense, va parler à Onésime, l'esclave en fuite, et lui dire qu'il doit revenir voir son maître. Et tout dans le corps d'Onésime doit dire « Non, pas question, je veux pas !» Mais c'est un nouveau chrétien, un vrai chrétien, et il a le sentiment qu'il doit retourner, demander pardon à son maître, essayer de régler la situation. Et sans doute que Paul lui dit « Oui, tu as tout à fait raison. » c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu demandes pardon à ton maître, que tu restitues ce que tu lui as volé. Mais lorsque les esclaves étaient repris, il y avait un peu comme dans l'histoire des débuts de l'Amérique, lorsque les esclaves étaient repris, on leur marquait un grand F sur le front, pas pour F comme front, mais F comme fugitive en latin. Et ça voulait dire qu'on pouvait en disposer comme on voulait, on pouvait les tuer. La loi romaine ne disait rien, donc il était dans une situation qui allait lui coûter que de revenir à Colosse voir ce maître qu'il avait fui. Paul, rempli de compassion, lui fait une petite bafouille. Un petit mot. Un peu comme les parents qui font un petit mot pour leur enfant qui retrouve l'école après quelques jours d'absence parce qu'il a eu la grippe ou quelque chose, pour pas que l'enfant soit puni. Paul va écrire cette lettre pour expliquer, pour intercéder, pour faire un appel à la bonté de Philémon, le maître de cet esclave qui va revenir lui demander pardon. C'est intéressant parce que c'est une lettre très personnelle. Les lettres aux Éphésiens, même à Tite ou à Timothée, c'était fait pour être lu. Ici, il est dit que Paul s'adresse au verset 1, Paul prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée. Timothée était avec lui, c'était celui qui allait prendre sa suite quelque part, comme l'apôtre ou le pasteur ayant l'autorité de Paul. Et puis il dit, donc il s'adresse à Philémon, il s'adresse à Appia, sa femme, à Archie, peut-être leur enfant, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, on peut se sentir libre de lire cette lettre. C'est pas comme si on est tombé sur du courrier personnel qu'on lirait de façon mauvaise ou de façon illégale. Cette lettre est très personnelle. C'est vraiment une lettre qu'il remet à Onésime, l'esclave en fuite, pour que quand il retrouve son maître, il lui donne tout de suite le mot, et Paul se présente dès l'entrée, il dit que c'est lui. Parce que s'il avait dit à la fin, il est possible que Philémon s'empare du fugitif et le mette à mal. Paul nous parle, écrit donc à Philémon. Et c'est intéressant parce que cette petite lettre, cette petite carte postale, on pourrait dire, ce petit mot d'excuse, l'Esprit Saint a choisi de l'inclure dans le canon de l'Écriture. Il n'y a pas de hasard. Si cette lettre est là, si nous la lisons aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Quel est le thème de cette lettre ? Souvent, le vendredi soir, on aime bien chercher les mots-clés dans le texte. Là, vous pourriez chercher le mot-clé, il n'y figure pas. Et pourtant, tout le texte parle d'une seule chose, il parle du pardon. Pardon. Pardonner. Le mot en français vient du latin, pardonare, qui veut dire tout donner. C'était aussi le mot, on disait perdone vida, ce qui voulait dire donner la vie. Donner la vie à quelqu'un qui était condamné à mort. Le pardon. Il y a plusieurs expressions en hébreu qui sont traduites par pardon, notamment le fait de recouvrir quelque chose. C'est le mot kofar qui nous donne le Yom Kippour, où on recouvre la faute par quelque chose d'autre. En grec, dans le Nouveau Testament, c'est l'idée de jeter au loin quelque chose. Mais c'est cette idée qui est présente dans toute la parole de Dieu. L'idée de pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre esprit qui vient tout de suite à votre esprit, à l'esprit ? Quelqu'un que vous devez pardonner. Vous y êtes ? Le texte vous parle aujourd'hui. Le texte est puissant, le texte est fort, et vous n'allez pas l'aimer. Parce que on n'aime pas pardonner. Notre vieille nature n'aime pas pardonner. Notre vieille nature aime se venger. Ah oui! Notre vieille nature, elle s'accroche aux mauvais sentiments. Elle ressasse. Mais quelqu'un a dit très justement que le pardon, c'est la qualité humaine qui nous fait le plus ressembler à Dieu. Nous avons la bénédiction, j'allais dire la chance, ce n'est pas une chance, c'est fait par plan. Nous avons un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui pardonne, nous avons un Dieu qui veut que nous pardonnions aussi. Et nous avons un Dieu qui nous dit: si tu pardonnes pas, je te pardonne pas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment précieux au cœur de Dieu, cette idée de pardon. Pensez toujours à cette personne qui vous a fait du mal, peut-être dans votre enfance, peut-être il y a récemment au travail, peut-être votre époux ou votre épouse, gardez-les à l'esprit. Le pardon. C'est intéressant parce que, et je vous invite vraiment à vous impliquer dans l'Église, pas venir une seule fois le dimanche. Essayez de venir aux réunions de prière, essayez de venir aux études, essayez d'être dans la parole tous les jours. Parce que là, le Seigneur peut marteler des thèmes. Mardi matin, à midi, il y a les mamans. Le matin, il y a les papas et les non-papas encore. Mais mardi dernier, on a une des prières que l'on a vues. C'était dans Luc 17. On va juste rapidement le voir et le commenter. Jésus... Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples: « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. » Il va y avoir des problèmes dans votre vie. Il va y avoir des gens qui vont pécher contre vous, il va y avoir des choses terribles. Mais du moment que ce n'est pas vous qui êtes responsable, ça va. Parce que pour celui par qui elles arrivent, qu'il soit maudit. Malheur à celui par qui elles arrivent. C'est fort, ça. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. On pense souvent aux petits-enfants, mais c'est vrai pour tous les croyants, pour tous les hommes. Prenez garde à vous-même. Attention, écoutez. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, s'il se repent et se reprend, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et les apôtres, ils réagissent comme nous, ils disent « Mais c'est pas possible ça !» Et lui demandent « Augmente-nous la foi, augmente notre foi. » Ça continue, mais c'est ce thème un peu plus tôt dans Luc, dans l'évangile de Luc, verset 11 du chapitre 15, il y a la fameuse histoire du fils prodigue. Ça aussi, c'était le passage qu'on avait vu il y a mardi matin, il y a 2 semaines. Et ce n'était pas coordonné par moi. C'est le Seigneur qui fait qu'on est dans Philémon aujourd'hui. Et je crois qu'il veut marteler des choses dans mon cœur. Et peut-être qu'il veut aussi les marteler dans vos cœurs. Le pardon. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, d'un père, apparemment assez riche, 2 fils. Il y en a un qui se moque de son père, qui ne cherche pas à être proche de lui. Tout ce qu'il veut, c'est son héritage. Il veut l'argent qui lui revient pour aller faire la fête. C'est ce qu'il fait. Et puis très rapidement, les amis le laissent tomber. Il n'a plus d'argent. Il doit se faire embaucher, lui qui était juif, comme gardien de cochon. Tout ce qu'il mange, c'est la nourriture qui sont... Il aurait aimé se servir de la nourriture qui était servie aux cochons, mais on ne lui en donnait pas. Et puis, rentré en lui-même, il réfléchit un peu, il revient à lui-même, à ses sens, il revient à la sagesse, il écoute Dieu. C'est pas dit, mais il revient en lui-même. Et il réalise qu'en fait, les employés chez son père sont mieux lotis que lui. Il dit ici, je péris à cause de la famine. Et verset 18, il décide d'agir, je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Il va vers son père, il n'espère pas être pardonné. Il va simplement mendier auprès de ce père qu'il a délaissé, auquel il n'a pas montré d'affection. Il va aller lui demander de pouvoir avoir un peu de nourriture, d'être traité comme les employés. Cette histoire, en fait, c'est du fils prodigue, c'est une des plus belles histoires de la Bible. C'est l'histoire de la façon dont Dieu nous traite. Nous sommes tous ses fils prodigues. Certains d'entre nous peuvent être aussi le frère. On n'en parlera pas trop parce qu'on n'a pas le temps. Le frère qui était Sainte Nitouche, qui était resté auprès du père, qui n'avait pas tellement d'amour pour lui, mais qui faisait ce qui était bien de faire, qui était légaliste, qui suivait la loi. Mais ce qui est surprenant, ce qui est merveilleux, c'est la réaction du père. Son père, comme il était encore loin, verset 20, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils commence à dire « J'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père fait venir les serviteurs, « Donnez-lui la robe, on va faire la fête, on va amener le veau gras, tuez-le, on va se réjouir. Voici que mon fils, verset 24, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. » La réaction du fils aîné est intéressante, mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce que je veux vous dire. simplement le verset 31, devant ce frère juste qui s'indigne de la façon incroyable dont le père aime l'autre frère qui l'avait rejeté. Il lui dit, « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » On voit ici comment, bien sûr, c'est un type, c'est une belle illustration de Dieu le Père qui nous a tous créés, qui nous aime. Il aime autant ceux qui le rejettent que ceux qui suivent une vie chrétienne. Et puissions-nous ne pas vivre une vie chrétienne légaliste en ayant perdu la joie de notre premier amour, la joie d'appartenir au Seigneur et d'être en communion avec lui. Mais cette petite parabole, elle nous montre que Dieu pardonne. Elle nous montre comment Dieu pardonne. Dieu pardonne avec empressement. Tous les matins, il venait voir si son fils n'allait pas revenir. Il pardonne totalement. Il le reprend comme un fils, il fait la fête. Et il pardonne même de façon un peu extravagante. Ce qui choque son frère, qui lui était resté bien sage. Même si c'était pas drôle, lui il était sage. Nous avons un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui pardonne de façon spectaculaire. Et ça, encore une fois, c'est un thème qui est dans toute la parole de Dieu. Le pardon. Dans l'Exode 34, verset 6, il y a ce passage qui est souvent cité. L'Éternel passa devant lui, l'Éternel Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, etc. Dieu pardonne. Et Dieu veut que nous soyons des gens, des êtres, qui pardonnions les autres. Proverbe 19:11, l'homme qui a du discernement est lent à la colère, comme Dieu, et il met son honneur à passer sur une offense. Nous devrions pas nous glorifier, mais nous réjouir de nos pardons. Nous vivons dans une société où pardonner, c'est de la faiblesse. Les héros des films, c'est Sylvester, Stallone, Rambo. On pardonne pas, on détruit. On annihile, on est fait exploser la gueule aux gens qui nous ont fait du mal. Pardonnez mon anglais. On est dans une société, encore une fois j'en parlais, on aime bien être en colère les uns contre les autres. Et surtout, on pardonne jamais. Jésus nous a dit, en nous apprenant à prier dans Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier. Vous connaissez la prière. Verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on va demander que Dieu nous pardonne. Et il nous dit, vous lui dites, Regarde tous les gens que j'ai pardonnés et pardonne-moi aussi. Un peu plus loin, verset 14 dans Matthieu 6, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, pensez à cette personne encore, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jacques le dit aussi dans Jacques 2, 13. Il nous dit « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Pas de pardon accordé par vous, pas de pardon reçu de ma part, dit le Seigneur en essence. Paul l'a redit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. » Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et dans Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. On ne peut pas dire que Dieu ne nous donne pas son cœur sur le pardon. Ce qui est intéressant, c'est que ce thème du pardon, qui est repris dans toute la parole, des fois il est repris de façon théologique, comme dans l'Exode, Dieu est un Dieu compatissant qui pardonne. Il est repris sous des formes de proverbes, sous des formes de paraboles, comme cette histoire du fils prodigue. Mais là, si le mot n'est pas, on revient à Philémon, si le mot n'est pas prononcé, le thème, encore une fois, de cette petite lettre, c'est le pardon, et c'est basé sur une histoire vraie. C'est pas une allégorie, c'est un cas bien concret. Et vous aussi, moi aussi, j'ai des cas bien concrets où je dois pardonner. Cette petite lettre, souvent on la lit, on fait quelques commentaires, mais j'aimerais approfondir un peu. Donc dans les prochains 6 mois, non, je plaisante, on va peut-être faire 2 études. Il y a plein de choses à voir dans cette lettre. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui veut que nous pardonnions. Alors on peut en parler encore une fois de façon allégorique. C'est très beau l'histoire du père et du fils prodigue. On peut en parler en principe, vive le pardon. Mais encore une fois, là, on va voir comment Paul encourage Philémon à pardonner. On y reviendra, peut-être on fera encore une étude la semaine prochaine sur le reste du texte. J'aimerais juste voir un peu dans les versets 4 à 7. Dans les versets 4 à 7, certains disent, en fait, Paul est en train de passer la pommade. Il prépare Philémon à recevoir la requête que Paul va lui faire au verset 10. il n'ose pas prononcer tout de suite, c'est comme s'il n'osait pas prononcer tout de suite le mot, le nom d'Onésime. Parce que ces personnes qu'on a du mal à pardonner, la mention de leur nom, de leur la vue de leur photo, quelque chose qui nous les rappelle, ça fait monter notre tension artérielle. Je vois qu'il y en a qui savent ce que je veux dire. Et c'est, encore une fois, pensez bien à cette personne ou à ces personnes, parce que Dieu veut travailler votre cœur aujourd'hui. Paul, dans ses versets, dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Oh oui, c'est vrai, je suis... Philémon, il se dit, c'est vrai qu'il a raison, hein. Il a raison, Paul, je fais toutes ces bonnes choses. En fait, on pourrait penser, oui, que Paul le caresse dans le sens du poil pour lui donner le coup de grâce ou la piqûre, l'injection de vérité qui doit être mise en œuvre. Et je ne pense pas que Paul manipule. Paul aime beaucoup ce frère Philémon. Il va utiliser le fait que Paul va utiliser le fait dans le verset 9 qu'il est âgé. En plus, il est prisonnier. Donc il va lui demander une petite faveur. Mais là, il prépare le terrain et on peut voir ça donc peut-être comme une façon de passer un peu de pommade, mais je crois qu'une façon plus riche que j'ai trouvée chez un auteur, c'est de voir quelles sont les caractéristiques, le caractère de celui qui pardonne, de celui qui peut pardonner. C'est toujours bon d'en trouver 7. 7, c'est le nombre parfait. D'abord, le vrai pardon, c'est réservé en quelque sorte aux chrétiens. Parce qu'on peut pardonner, mais on va pardonner pour la bonne motivation, c'est par amour d'un Dieu qui nous pardonne. Certes, les gens se pardonnent entre eux. Mais la vraie motivation de l'amour de Dieu qui fait que cet amour qui pardonne, nous le donnons en pardonnant. Il faut que l'on ait reçu le Seigneur dans son cœur. Il faut qu'on en soit chrétien. Donc, pour vraiment pardonner, il faut être chrétien. Et peut-être que si on a du mal à pardonner, on peut se demander, est-ce que j'appartiens vraiment au Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment compris l'Évangile? Est-ce que je lui appartiens? Verset 4, il est plutôt... J'entends... Paul lui dit, chaque fois que je pense à toi... Je remercie le Seigneur. J'espère qu'il y a des personnes, qui sont dures à pardonner, mais il y a peut-être des personnes dans votre vie, quand vous y pensez, vous dites merci à Dieu pour ces personnes. C'est bien. Il a le souci. Celui qui pardonne, celui qui peut pardonner, donc c'est un chrétien. Et c'est quelqu'un qui a le souci du Seigneur Jésus-Christ. Et J'entends parler de l'amour, de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus. Si on a du respect, de l'amour, du souci, de l'honneur, de la réputation de Jésus, du Seigneur Jésus, on va être prêt à pardonner. Parce que ne pas pardonner, c'est dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu pour régler les problèmes à tes souhaits. Il a aussi donc le souci de un chrétien qui a le souci de Jésus, mais aussi un chrétien qui a le souci des autres. Il rend grâce à Dieu, car il entend parler de l'amour, de la foi dont tu ferais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Si on aime les gens autour de nous, on va avoir tendance à cultiver cette faculté de pardon. 1 Corinthiens 13, la description de l'amour. L'amour pardonne tout. Si nous voulons pouvoir pardonner, ça, il faut qu'on aime les autres. Si on vit tout seul dans notre tour d'ivoire en n'ayant aucun souci des autres, on ne va pas pouvoir pardonner. Il dit, verset 6, Paul écrivant à Philémon, lui dit, « Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. » La personne qui pardonne va avoir le souci de la communion fraternelle. C'est le mot grec koinonia, que certains d'entre vous ont sans doute déjà rencontré, qui est difficile à traduire, parce que la koinonia, c'est pas seulement d'être ensemble dans la communion, mais c'est de s'appartenir les uns aux autres. Et on rejoint le message de Pierre sur le corps de Christ. On est des individus rassemblés, mais il y a une dimension spirituelle qui est tout aussi réelle. Nous formons une entité, nous formons un organisme vivant. Nous sommes partie intégrante du corps de Christ. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à cœur. Favoriser la communion fraternelle, l'amour les uns pour les autres. Il y a une étude très intéressante à faire dans la Bible. C'est le plat, les uns, le plat, les uns pour les autres. C'est une expression qui revient sans cesse aussi dans le Nouveau Testament. On ne vit pas tout seul. Il y avait une chanson de Jacques Brel qui disait « Jeff, t'es pas tout seul ». On peut sentir des fois la solitude, mais la réalité, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Lorsque quelqu'un va mal, un chrétien va mal, il dit « Bon, ben, je me sens trop mal pour parler aux autres, je ne viens plus à l'église pendant quelques semaines. » Ça peut durer plus longtemps. C'est justement là que vous avez besoin d'être là. Pour recevoir et pour donner. Pour être vulnérable, pour partager que la vie, ce n'est pas simplement un sourire figé le dimanche matin pendant 1h30 ou 2h, et puis après la vraie vie commence. Dans la vraie vie, c'est l'unité, c'est la communion fraternelle. Et si on a ça à cœur, on va être prêt, on va être capable de pardonner. Non seulement on a le souci du Seigneur de Jésus, mais au verset 6, on va avoir soif de la gloire de Christ. Ce qu'on va faire, on va le faire en vue de Christ, pour lui donner une bonne réputation, que les gens disent, tiens, ce sont des chrétiens, regarde comment ils s'aiment, comment ils se pardonnent. C'est facile d'aimer, d'avoir des sentiments positifs envers quelqu'un. Le vrai test de l'amour, c'est lorsque ces sentiments sont confrontés à des difficultés et qu'on les surmonte et qu'on va au-delà. Quelqu'un qui va pardonner, c'est aussi quelqu'un qui va avoir le souci de la connaissance. Il est dit ici, verset 6, je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ Jésus. Le mot reconnaître, c'est le mot qui veut dire connaître de façon supérieure, connaître de façon intime et forte. Parce qu'on peut parler du pardon, mais si on n'a pas pardonné, si on ne s'est pas laissé blesser par le pardon qui coûte, on ne connaît pas le pardon. On peut lire des livres sur comment faire de la voile. On peut lire des récits du Vendée Globe. Mais c'est autre chose que de s'embarquer sur un voilier et être à la barre. De la même façon, cette connaissance du pardon, elle est nécessaire. Il faut qu'on la mette en pratique, le pardon. Si on a ce souci de connaître les choses de l'intérieur, de vraiment connaître la vie chrétienne parce qu'on la met en pratique, pas parce qu'on la lit dans la parole ou on a reçu une éducation chrétienne. Non, si on se confronte à la réalité, à la difficulté du pardon, parce que c'est difficile le pardon. Encore une fois, notre vieille nature refuse le pardon. Quelqu'un disait, pardonner, c'est refuser mon droit à me venger. On n'a pas pardonné. Ce dont on parle maintenant. Il dit aussi, j'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé ou rafraîchi. Tu fais du bien aux autres. C'est le souci d'être en bénédiction pour les autres. Si on a ce souci aussi, c'est le septième point, on va avoir le caractère de quelqu'un qui peut pardonner, de quelqu'un qui pardonne. Être chrétien, avoir le souci du Seigneur Jésus, avoir le souci des autres, le souci de la communion, le souci de la gloire de Christ, le souci de la connaissance intime et le souci d'être une bénédiction pour les autres. Paul dit en fait, voilà les caractéristiques de quelqu'un qui peut pardonner, et mon cher Philémon, je vois ces caractéristiques en toi. Donc c'est la vision de dire, il est en train de lui passer de la pommade, ça ne le fait pas. Il nous parle, Dieu nous parle, Dieu veut continuer de vous parler pour pardonner. Donnez tout, donnez votre fierté, donnez votre droit à la vengeance, mettre à mort la vieille nature en vous.